réverbères qui éclairent les rues, les enseignes clignotantes des magasins, les monuments et les bâtiments officiels qui restent illuminés toute la nuit. Résultat, nos villes, la nuit, sont éclairées comme en plein jour ou presque. C'est ce que l'on appelle la pollution lumineuse. Un phénomène en pleine expansion dans de nombreux pays. Avec nous pour en parler, Pierre Brunet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire adjoint de l'ANPCEN, c'est l'Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne.
Alors, pour commencer, j'aimerais bien que vous nous définissiez un petit peu qu'est-ce que c'est que cette pollution lumineuse. Qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit?
C'est cette situation où finalement la nuit est en train de disparaître, je dirais, envahie par les éclairages extérieurs, les éclairages artificiels, qui fait que la nuit aujourd'hui se transforme en crépuscule artificiel. Elle disparaît vraiment sous cette lumière que l'homme a introduite dans l'environnement. On parle de pollution lumineuse.
Alors on peut tous en faire l'expérience, évidemment. On va la nuit dans la rue et on voit, s'il fait beau, on voit les étoiles ou on ne les voit pas. Et si on ne les voit pas, c'est que...
C'est qu'il y a de la pollution lumineuse. Effectivement, on ne les voit plus. On ne les voit plus, les étoiles.
Alors il y a des degrés, hein. On parle de luxe. C'est ça?
Le luxe, non, c'est une unité d'éclairement. Or, effectivement, c'est les niveaux d'éclairement avec lesquels on éclaire nos rues. Et ces niveaux sont en croissance exponentielle, hein, avec les progrès technologiques. Oui.
Alors justement, en France, cette pollution a augmenté de 30% en 10 ans. Et c'est un phénomène que l'on observe dans de nombreux pays, comme en Suisse, comme le constate l'ingénieur en management environnemental Arnaud Zuffray. Arnaud Zuffray.
Ici, on est à 10 luxe. À peu près à la hauteur de l'œil, hein. Et puis si on retourne le capteur pour voir la lumière qui vient de vers le bas, on est à passer 1000 lux ici, 1200 lux. On est à plus de 100 fois les valeurs qu'on a pour l'éclairage public, pour l'éclairage décoratif, et comme ça vient directement du bas, on est complètement ébloui par cette source lumineuse.
Pour le jeune ingénieur, le constat est simple. L'électricité est partout, en ressources abondantes, elle colonise les endroits les plus improbables, comme ici, sous un pont, avec un éclairage dirigé vers le bas.
C'est une œuvre d'art, alors c'était l'objectif, mais c'est clair qu'on ne s'est peut-être pas rendu compte des implications que ça a pour la faune et la flore, notamment les poissons qui sont gênés dans leur migration, qui sont éblouis, qui sont gênés par cette situation qui est quand même assez étonnante. Et notamment aux États-Unis, on commence à démonter ce genre de système parce qu'on s'est rendu compte que ça fait une véritable barrière physique à la migration des poissons.
Alors l'astrophysicien Yvan Dutil est en ligne avec nous du Québec. Ça y est, vous nous avez rejoint. Bonjour.
Oui, oui.
Bonjour.
Bonjour.
Alors,
comment vous expliqueriez, vous, le développement de ce phénomène? Parce que tout le monde est touché, tous les continents aujourd'hui, par ces questions de pollution lumineuse.
En fait, ce qui apparaît le plus évident, c'est une question de compétition de visibilité, puis aussi du fait qu'il n'y a pas de réglementation. Le problème avec l'éclairage, c'est que notre œil s'adapte automatiquement quand on augmente la quantité de lumière. Donc, si vous avez quelqu'un qui éclaire plus, ben l'autre à côté a l'impression d'être dans le noir, fait qu'il se met à allumer lui aussi plus les lumières. Puis c'est un phénomène de voisin gonflable. Et d'ailleurs, aux États-Unis, ça a été montré qu'il y avait des entreprises, entre autres McDonald's et Burger King, qui sont deux chaînes de restauration rapide, compétitionnaient pour avoir le système d'éclairage le plus puissant possible pour noyer son voisin dans la lumière.
Il y a une surenchère, comme ça.
Une surenchère, et le problème, c'est que les services publics, par la suite, doivent éclairer plus les rues pour que les rues paraissent sombres par rapport aux édifices publics de chaque côté. Ici, à Québec, c'est un problème, entre autres. Il y a des endroits qui sont suréclairés parce que les voisins sont suréclairés. Ça ne s'arrête pas, là.
Pierre Brunet, c'est le même phénomène ici?
Oui, bien sûr, hein, cette compétition, on la rencontre partout, je dirais même. Pour justifier de renforcer l'éclairage d'un quartier, il suffit de renforcer l'éclairage d'une rue, toutes les autres paraissent sombres. Et du coup, il va s'agir de mettre au même niveau l'ensemble des rues. Donc cet aspect de compétition existe. Notamment aussi sur tout ce qui est enseigne commerciale, évidemment. Hein. Pour se signaler, une enseigne a besoin d'être la plus éclairée possible. On a vu ça il y a quelques années avec les façades des hôtels parisiens. Tous les hôtels parisiens ont éclairé leurs façades, je dirais, dans une compétition commerciale.
Alors, il y a aussi le rôle des éclairagistes, évidemment, qui, eux, ont intérêt à vendre leurs lampadaires.
Bien sûr, ils sont jugés partis, bien sûr. Et aujourd'hui, ils ont édicté des normes d'éclairement. Évidemment, ces normes, elles sont calées sur les capacités technologiques et sur nos moyens financiers. Elles ne sont pas forcément adaptées à la mission demandée à l'éclairage.
Alors, pourtant, il y a certains pays qui éclairent moins que d'autres. L'Allemagne, par exemple, est un bon élève. Bonjour, Andreas Hennel.
Bonjour.
Alors vous êtes astronome, vous faites des conférences pour sensibiliser la population allemande sur ces questions. Alors pourquoi est-ce qu'on éclaire deux fois moins en Allemagne qu'en France?
Ouais, je sais pas, mais je crois que c'est peut-être que les Allemands essaient d'épargner l'énergie. Et il y a aussi d'autres villes parce que ça coûte très cher. Il y a beaucoup de villes qui réduisent l'illumination pendant la nuit parce que, par exemple, il y a des villes qui allument tous les deuxièmes lampadaires pendant la nuit après peut-être 11 heures le soir.
C'est-à-dire un lampadaire sur deux?
Oui, c'est ça.
Donc c'est essentiellement une préoccupation énergétique.
Oui, c'est ça.
Et en plus, ça évolue, c'est-à-dire non seulement vous éclairez deux fois moins qu'en France, mais il y a eu récemment une réunion au Bundestag en Allemagne pour essayer de voir si on pouvait pas faire une loi ou encore plus diminuer cette pollution lumineuse.
Oui, c'est ça. On observe maintenant que les politiciens commencent à reconnaître le problème et de chercher des solutions. Mais au moment, on n'a pas la possibilité de trouver la majorité pour une loi, mais on cherche peut-être pour des instructions techniques, comme on a peut-être pour l'air ou pour le bruit et tous les autres problèmes environnementaux.
Merci, Andréa Sanet. Quels sont les impacts maintenant sur la santé de...
Sur l'homme, par exemple.
Dites-nous un petit peu. Pierre Brunet, qu'est-ce qu'on a observé? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui?
Alors, l'homme, attention, l'homme, c'est, je dirais, c'est une partie de la faune, hein, on va dire, en général.
Un mammifère parmi
d'autres. Donc, voilà, c'est un mammifère parmi d'autres. Donc, l'impact sur la faune, il est considérable. Sur l'homme, il est mesuré. D'abord, la lumière, elle a été installée, je dirais, pour pouvoir prolonger la vie sociale, hein. Donc, fort impact sur notre comportement social, puisque grâce à elle, nous allons avoir une activité nocturne, ce que nous pourrions pas faire de la même façon. Autre aspect qui lui est négatif, par contre, ceci dit, dans l'aspect social, il y a aussi l'aspect négatif, il n'y a plus le signal que c'est le temps du repos, si vous voulez, cette lumière dans les rues. Donc ça va inciter au tapage, au bruit, à parler fort, aux éclats de voix dans la rue, hein. Attention, le signal du repos n'existe plus lorsqu'on renforce les niveaux de lumière. Donc, aspect sur le comportement social. Autre aspect qui lui est particulièrement négatif, c'est sur la qualité de notre repos, la qualité du sommeil. Il devient de plus en plus compliqué aujourd'hui, en milieu urbain et même rural, dans les plus petits villages, d'avoir une atmosphère obscure dans nos chambres, dans nos habitations. Il est remarquable de constater sur Paris le nombre de lampadaires dont les vitres ont été peintes en noir ou un abat-jour a été rajouté parce qu'il y a eu des plaintes de riverains, parce qu'il y a trop de lumière qui rentre dans les habitations. Donc, un problème, je dirais, sur la qualité du sommeil, du repos.
Et ça a des conséquences physiques, hein, puisqu'il y a l'hormone, la mélatonine, qui régule notre horloge biologique,
sécrète moins. Oui, alors ça, c'est l'hormone de l'obscurité, hein, qui est produite par notre organisme, non pas quand nous dormons, mais quand nous sommes dans l'obscurité. Et des niveaux d'éclairement,
ensemble, en fait,
voilà, et des niveaux d'éclairement minimes réduisent ou bloquent cette production de mélatonine, avec des implications, effectivement, sur la santé.
Yvan Dutille, vous voulez rajouter quelque chose sur cette question santé?
Je voulais juste mentionner ce que Pierre disait. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au dossier au début des années 90, il n'y avait pas rien dans le domaine des biologies. En fait, il y avait un seul article qui avait été publié sur l'effet de la lumière sur les papillons de nuit. Et ce qu'on appelle la scotobiologie, la science de la nuit, ça s'est développé tout récemment dans les 10 dernières années, essentiellement. Et ce qu'on a découvert, initialement, on pensait qu'il fallait être vraiment très près de la lumière pour qu'il y ait des problèmes. Ce qu'on a réalisé, en tout cas pour la faune, c'est que plusieurs espèces ont besoin de niveaux de luminosité incroyablement sombres, de l'ordre de l'équivalent d'un ciel étoilé recouvert de nuages. Et c'est des espèces qui vivent dans des conditions, c'est comme une niche écologique. Ils attendent qu'il fasse extrêmement noir pour se déplacer puis pour aller chercher leur nourriture. Donc, la pollution lumineuse, qui est normalement juste un emmerdement pour les astronomes, ça présente une menace carrément pour ces espèces-là. Et même pour les humains, là, on commence à percevoir qu'il y aurait une corrélation entre certains taux de cancer et le niveau d'exposition à l'éclairage nocturne. Pas le travail de nuit, mais vraiment l'éclairage extérieur des villes.
Pierre Brunet, vous observez vous aussi des modifications des écosystèmes avec ces...
Non mais ça c'est ce que nous relatent effectivement tous les entomologues, tous les biologistes, les naturalistes, ils nous racontent effectivement que la vie est apparue sur Terre dans l'alternance du jour et de la nuit. Nous sommes en train de briser cette alternance, de la supprimer cette alternance jour-nuit, donc nous affectons tout le vivant, toute la physiologie du vivant, et c'est vrai ce que disait Yvan Dutille, c'est-à-dire que sur des niveaux d'éclairement extrêmement faibles qui correspondent à la pleine lune, on observe des modifications de comportement, c'est-à-dire aujourd'hui, beaucoup d'espèces sont régulées par simplement le cycle lunaire, c'est-à-dire à la pleine lune, par exemple, vous avez la fécondation des coraux qui se produit, vous observez aussi les migrations diurnes du plancton, le plancton remonte à la surface pendant la nuit, replonge pendant le jour, et il plonge également pendant la pleine lune. Donc en fait, des niveaux d'éclairement qui correspondent à la pleine lune suffisent déjà à réguler, à moduler beaucoup d'écosystèmes. Il faut savoir que l'éclairage des rues, c'est 100 fois la pleine lune. Donc, vous voyez, le niveau de l'éclairement artificiel est incomparablement plus puissant qu'une pleine lune,
et en plus,
qui est pourtant un niveau déjà considérable.
Et en plus, il n'est pas rare dans certaines municipalités, par exemple, qu'on éclaire le plus vieil arbre de la ville.
Exactement.
Alors là, c'est catastrophique.
On a fini d'éclairer toutes les églises et toutes les façades de mairies de France, donc aujourd'hui, on ne sait plus quoi éclairer, alors on commence à éclairer les arbres.
D'électricité dans C'est pas du vent sur RFI, et évidemment une chanson de circonstance puisque nous nous intéressons aujourd'hui à la pollution lumineuse dont l'une des conséquences est de nous empêcher de voir les étoiles. C'est moins romantique, mais surtout ça gêne les astrophysiciens comme au Pic du Midi dans le sud de la France.
Pic du Midi, haut lieu d'observation astronomique où les scientifiques s'intéressent au moindre scintillement situé à des milliards d'années-lumière. Dans la plaine, à 200 km de là, lorsque le soleil se couche, d'autres lumières apparaissent, celles de Toulouse, des lumières nuisibles.
C'est cette lumière diffusée qui gêne les astronomes. C'est pas le lampadaire en fait qu'on peut avoir au fond du jardin qui va nous gêner parce qu'elle nous éblouit en fait cette lumière, mais c'est plus la lumière diffusée et accumulée de tous les lampadaires qui rayonnent vers le ciel, qui diffuse donc dans l'atmosphère et qui perturbe l'observation parce qu'elle rend le fond de ciel lumineux et donc les objets très faibles comme les galaxies lointaines ne peuvent plus être observés.
Cet astrophysicien porte un projet singulier. Faire du Pic du Midi la première réserve de nuit étoilée d'Europe, et pour ce faire, l'agglomération doit privilégier des éclairages tournés vers le sol, comme ici au Cancéropole, aux lampadaires où les ampoules sont visibles de haut et de loin. Sur les 65 000 lampadaires que compte la ville, les éclairages tournés vers le ciel ne sont pas rares.
Alors là, on a un très très bon exemple puisque le support est en dessous du lampadaire. Donc ça éclaire moins bien en dessous du lampadaire. Là, on souhaite avoir de l'éclairage. Alors que ça éclaire dans toutes les directions à l'opposé. Par exemple, là, on a une très belle illustration. Le lampadaire éclaire l'arbre. On voit très très bien l'arbre. Le but du jeu, c'est pas de voir l'arbre la nuit, c'est d'éclairer l'endroit où les gens circulent.
Réduire la pollution lumineuse est une des mesures issues du Grenelle de l'environnement. Et à Toulouse, le projet de réserve étoilée du Pic incite la ville à tester en avant-première de nouveaux lampadaires qui baissent d'intensité en absence de passage.
L'enjeu, c'est petit à petit, au fur et à mesure que l'on remplace notre éclairage, d'être soucieux de technologies, en effet, qui privent, si j'ose dire, ce qu'on appelle de la lumière intrusive, celle qui rentre dans les appartements, et de toute cette lumière qui se dégage vers le ciel et qui peut être préjudiciable au beau projet du Pic du Midi comme réserve de ciel étoilé.
Alors, Yvan Dutille, vous êtes vous aussi astrophysicien et vous avez réussi à créer une réserve de ciel étoilé dans un rayon de 50 km autour du mont Mégantic. L'histoire a démarré en 93. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez réussi à sensibiliser les autorités locales et la population sur ce projet?
J'ai pas fait ça tout seul, mais j'ai eu l'idée de ce projet-là en revenant d'un stage au télescope Canada France-Hawaii. J'habitais 6 mois à Hawaii. Et je suis revenu au Québec et je suis allé observer pas longtemps après l'observatoire du Mont Mégantic. J'ai réalisé qu'il y avait énormément de lumière au niveau de l'observatoire, que c'est beaucoup moins noir qu'à Hawaï. Donc, en revenant en 93 à l'automne, j'ai fait un rapport aux astronomes québécois disant, ben regardez, on pourrait faire une réserve de ciel étoilé. Il faudrait changer les lumières. Bon, on a été estimé avec des modèles à peu près dans un rayon de 25 km contre la pollution lumineuse dans un rayon de 50 km. Et il s'est resté sur la glace pendant une période assez prolongée, jusqu'en 98, où c'était le 20e anniversaire de l'Observatoire. Ça a été rendu public. Et j'ai fait un mémoire en 2000. Et en 2002, c'est vraiment là que le centre d'interprétation du parc du Mont-Mégantic a engagé quelqu'un, Chloé Legris, pour mettre en branle le projet. Et ça leur a pris 3 ou 4 ans de sensibilisation. Il y a 2 ans, on a commencé à remplacer tous les lampadaires dans un rayon de 25 km de l'Observatoire. Donc, dans un rayon de 25 km, à 90%, on a changé tous les lampadaires, 2 rues et les lampadaires, surtout, ce qui est très important, les lampadaires sur les terrains privés, qui font la plus grande partie de la pollution lumineuse. Et il y a un règlement à peu près dans un rayon de 50 km autour de l'observatoire qui interdit certains types de lampadaires et oblige à utiliser certains types d'éclairage en particulier.
Alors, ça coûtait à peu près 1 million d'euros, c'est ça?
Aux environs d'un million d'euros, il a fallu le taux de change que l'euro canadien change d'heure en heure, c'est toujours difficile à dire.
En gros, oui.
En fait, même il a fallu aller chercher une allonge parce que la façon dont on fonctionnait, c'est qu'on allait voir les gens pour leur offrir de changer leur lampadaire. Parce qu'il n'y avait aucune obligation, il y a ce qu'on appelle une clause grand-père dans les règlements. Donc, vous conservez vos droits acquis. Mais on avait sensibilisé les gens, on leur a dit, ben là, on va vous changer au lampadaire, on va vous payer 20% à peu près du coût. Ce qui fait que les gens rentraient dans leur investissement en quelques mois, en une année à peu près. Et ça a été tellement populaire qu'on a manqué de fonds, on a fallu rechercher une deuxième enveloppe du gouvernement pour continuer le projet. Donc ça fait toute une différence au niveau l'aspect nocturne de la montagne. Avant qu'on fasse cette substitution-là, en haut de la montagne, on n'avait plus besoin de lampes de poche.
Malgré une ville de 150 000 habitants juste à proximité.
Ben, la ville est à 55 km, mais la lumière venait des petits villages à côté. On allait en haut, il y avait des ombres. En remplaçant les lumières, tout est devenu sombre.
Et maintenant, vous voyez les étoiles. Alors, Pierre Brunet, c'est un bel exemple de réussite, mais bon, il n'y a pas des observatoires d'étoiles partout. Alors, quelles sont les autres solutions? On entendait, là, dans le petit reportage sur Toulouse, il y a une loi, hein, l'article 66 de la loi Grenelle 1.
Oui, en fait, tout citoyen a le droit à avoir un environnement, je dirais, nocturne de qualité, hein, un environnement serein, supprimer ce vacarme lumineux que, finalement, la technologie nous produit aujourd'hui. Donc, le Grenelle 2 a produit un article qui vise à réduire la pollution lumineuse. Or, c'est un article qui aujourd'hui manque d'aspect concret, c'est-à-dire qu'il est stipulé que toute lumière de nature à causer un trouble sera réduite ou supprimée. Bon, comment définir le trouble? Comment supprimer en fait de l'éclairage? Voilà. Donc en fait, il nous manque des décrets d'application. Alors par contre, on a de beaux exemples de par le monde, hein, de législations qui sont particulièrement abouti. Alors je pense à la Slovénie, hein, qui a inscrit dans la loi, de même qu'en France, on veut inscrire dans la loi que pour chauffer un bâtiment neuf, il faudra moins de 50 kWh par mètre carré par an. Il est inscrit dans la loi slovène que pour éclairer une rue, il faudra moins également de temps d'énergie par an et par habitant. Et ça, c'est inscrit dans la loi et c'est un exemple.
Vous évoquez le Chili aussi, ouais.
Chili, mais alors là aussi, on est plutôt autour des observatoires. On a les lois italiennes aussi, des lois régionales italiennes. Je pense à la région Marche, à la région Lombarde, où il est interdit d'éclairer vers le haut. Voilà, les éclairages publics ne peuvent pas éclairer vers le haut. Je pense également aux États-Unis, où l'attribution de fonds publics dans les travaux, les investissements d'éclairage public sont conditionnés au fait que l'on respecte certaines règles, et en particulier éclairer vers le bas. Donc ça, ce sont des législations américaines.
Alors d'ailleurs, Pierre Brunet, vous avez lancé un concours sur le même thème, là, des villages étoilés. Expliquez-nous vos
voilà,
concours, parce qu'on va arriver au terme de cette émission.
Là, c'est un peu, on a pris pour modèle ville et village fleuris. On s'est dit que pour embellir la France, les fleurs étaient importantes, mais aussi un beau ciel étoilé. Et donc, on propose aux 36 000 communes de France de remplir un formulaire, et en fonction de leur réponse, elles pourront être dotées de l'attribution ville ou village étoilé. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il est inscrit dans ce formulaire ? C'est quelle est la consommation par habitant ? Est-ce que l'on éclaire uniquement vers le bas ? Est-ce qu'il y a un horaire d'extinction ? C'est une pratique qui se perd aujourd'hui en France, mais qui était courante autrefois. Les villages éteignaient en fin de soirée. C'est une pratique qui se perd. Certes, elle se conserve encore dans beaucoup de villages, mais elle se perd. Ça, c'est un élément favorable de nature à obtenir le label ville et village étoilé.
Alors, Yvan Dutille, est-ce qu'on pourrait imaginer un tel concours au Québec?
Plusieurs municipalités qui sont embarquées dans le projet de lutte à la pollution lumineuse voulaient faire ce qu'on appelle des villages caractérisés. Entre autres, la ville de Lac-Mégantic, c'était ça. Ils ont fait des efforts énormes en réduction de pollution lumineuse pour que ça soit une marque de commerce de leur coin. Là, ce que j'essaie de faire depuis quelques années, c'est d'étendre cette pratique-là. Bon, maintenant qu'on a des règlements tout prêts à utiliser, on sait que ça a marché dans le coin du Mont-Mégantic, d'étendre ça dans d'autres régions du Québec, et même dans les grandes villes, à Montréal et à Québec, il y a des efforts qui se font actuellement en termes de changement de lampadaire urbain. La difficulté qu'il y a, c'est tant qu'il n'y a pas de règlement de lutte à l'éclairage qui permet de contrôler l'éclairage privé.
Merci, Yvan Dutille. On reprendra cette discussion avec grand bonheur. Malheureusement, on arrive au terme de ces missions. Merci, messieurs. C'est maintenant l'heure du billet de Serge Auru.
C'est pas du vent.
Bonjour Serge Auru.
Bonjour Anne-Cécile.
Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de la grippe porcine qu'on appelle maintenant l'AH1N1.
Et voilà que la grippe A étouffe pour quelque temps les effets de la crise financière, Anne-Cécile. Diversion opportune, pandémie mondiale, peur ancestrale, à vos masques, prêts, toussez. Effectivement, les porteurs du virus H1N1 nous sont signalés à chaque flash d'info. Une grippe, comme vous le dites, qu'il ne faut plus nommer porcine afin d'éviter de porter préjudice aux éleveurs de porcs. Alors déjà, nous subissions la grippe aviaire, qui provient de l'élevage industriel des gallinacées parquées à haute densité. Et nous voici maintenant attaqués par ce virus mexicain qui aurait été diffusé depuis un élevage intensif de porcs dans l'état de Veracruz.
Eh oui, 950 000 porcs réunis au même endroit, je crois.
Petit élevage. Mais l'économie nous impose ce type d'agriculture, nous dit-on d'un ton docte. On mange pour pas cher dans certaines de nos contrées, mais nos maladies coûtent cher à la communauté humaine, ne croyez-vous pas?
Oui, mais alors comment faire pour faire en sorte qu'une nouvelle agriculture plus respectueuse du vivant voit enfin le jour?
C'est la grande question, une agriculture économiquement viable, rendant les paysans heureux et fiers de leur mission. Car la mission des agriculteurs, c'est nourrir sainement les humains en protégeant l'environnement. D'ailleurs, le film de Jean-Paul Jaude, Nos enfants nous accuseront, qui souligne l'importance de l'agriculture biologique dans nos vies, vient de dépasser les 210 000 spectateurs en salle. Saluons ici cette œuvre cinématographique qui, avec peu de copies, tient si haut l'affiche. Et la cantine biocommunale de Barjac sert aujourd'hui d'exemple à la France entière. Je ne sais pas si vous connaissez le maire de Barjac, mais c'est un personnage extraordinairement charismatique. Ce film nous projette dorénavant dans une campagne que nous lançons et qui s'intitule « Oui au bio dans ma cantine ». En association avec GECO, le WWF souhaite voir les parents d'élèves interpeller le maire de leur commune pour l'inciter à promouvoir les produits de l'agriculture biologique dans les cantines scolaires des écoles primaires qui dépendent de sa mairie. Donc, le 18 juin 2009, C'est bien un appel à la conscience de nos élus qui sera lancé ce jour-là, le 18 juin. Un appel pour développer justement une économie pour ces agriculteurs bio qui contribuent largement et avec bienveillance à la sauvegarde du vivant. Gloire aux lombrics et aux abeilles, aux rivières sans pesticides et aux champs sans OGM.
Encore faut-il avoir suffisamment d'agriculteurs pour fournir ces comptines. Combien est-ce qu'il y a d'agriculteurs bio en France?
En France, aujourd'hui, il y a 12 000 agrobiologistes qui travaillent sur à peu près 2% des terres agricoles. Donc il est de notre devoir de citoyen de contribuer à développer largement cette agriculture respectueuse de la nature dont nous avons tant besoin et d'aider aussi les paysans à se convertir à la filière agrobiologique. Le 18 juin, envoyez un courriel, une lettre pétition à votre maire, vous pouvez le rencontrer en délégation ou en solo et dites-lui oui au bio dans ma cantine. On vous rétorquera que le bio est trop cher, que le bio doit être local et non pas être importé de pays lointains, que les filières d'approvisionnement sont aléatoires. On soulèvera plein de questions, mais il faudra bien trouver les réponses et les solutions pour que l'alimentation scolaire et la restauration collective puissent accélérer l'avènement de l'agriculture biologique dans notre pays, indispensable à notre santé et à celle de nos enfants. Parents, diffusez cet appel autour de vous. Dites oui au bio dans nos cantines.
À mardi prochain, Serge.
À mardi prochain, Cécile.
Pour plus d'informations, www.fr.
Demain, C'est pas du vent partira à la rencontre des éléphants du Laos. Rendez-vous donc demain, même planète.
Même heure.